Troisième cours de Ilchot Kibbutz Be'em, donc des lois importantes d'honneur du père et de la mère. Je vous lis le Shulchan Aruch, donc traité Yoredea, chapitre 240. 240, c'est Ram. Ram signifie quoi? Élevé. C'est la mitzvah élevée. Alinéa 4. Adechan Moraham. Jusqu'à où doit aller la crainte de ses parents? Il y a le mitzvah de Kibbutz, d'honorer. Il y a le mitzvah de Ram. Ram. C'est deux versets différents, c'est deux mitzvot différentes dans la Torah. Une, d'honorer, comme on a expliqué ce qu'est honorer, c'est donner à manger, donner à boire, habiller, sortir, entrer, etc. Et tout ce qui va avec, il y a aussi une loi de crainte. Crainte. Adechan Moram, jusqu'à combien, jusqu'à où doit aller la crainte? Aya ben lavush hamudot. Le fils était habillé avec des habits très très beaux, extraordinaires, le costume de Shabbat, le très beau costume. Yoshev Berosh HaKahal. Et à la tête du public. Il y a 200 personnes, il est sur le trône, comme ça. Place de Kavod. Ubaou Aviv et Emo. Ils sont venus son père et sa mère. Vekaro, ils ont déchiré ses habits. En public, devant tout le monde. Kou al Rocho, ils l'ont frappé sur la tête. Vers Koumefat. Et ils l'ont craché dessus. Je ne vous raconte pas maintenant un bouquin de Moussard, d'accord? C'est un livre de. C'est le Shulchan Aruch. Ils l'ont craché dessus. Lo yachlim otam. Défense de leur faire honte. Tu peux te protéger. Tu peux essuyer les crachats. Mais tu ne peux pas leur faire honte. Et là, il stock. Il se taira. Vira. Il craint. Mina melech. Malcham lachim. Du roi. Roi des rois. Qui est ordonné en cela. Voilà, messieurs, la barre est haute. Alors, les poskim disent, on peut, pendant qu'on prend les coups, on peut, papa, je t'en prie, un peu plus tard, ou ça me fait mal, ou je... avec, tu peux lui parler avec kavod, mais pas le droit de lui faire honte, pas le droit de lui parler durement. Élever le ton, chas v'shalom. On peut lever le ton contre son père et sa mère. On rendra cette importante mitzvah de Yira, de crainte des parents. Pas que ce cas-là. Si maintenant les parents veulent, par exemple, empêcher le fils de gagner de l'argent, il y a un manque à gagner. Ils lui font rater une affaire, ils font un truc et ça rate complètement à cause de ça. Ah, il ne peut pas venir, oh, vous m'avez rien du tout. Il peut leur dire, c'est dommage, j'aurais pu faire... Avec kavod. Il peut les empêcher aussi, mais avec kavod. Leur demander, je vous en prie de ne pas faire ça. Faites-moi, ça me fera perdre de l'argent, c'est dommage. Soyez gentils, comprenez. Tout avec kavod. On ne peut pas de force, pas avec la violence, pas avec la violence verbale. Et je n'ai même pas le besoin de le dire, violence, c'est bon là. C'est clair. Shulchan Aruch dit que, même si, durant cet épisode-là où ils l'ont battu, ils l'ont craché dessus, ce qu'ils me disent, même s'ils ont pris maintenant, ils ont pris une bourse de ses écus, d'accord, avec une bourse pleine d'argent, ils l'ont jeté à la mer, devant lui. Il doit certainement rien dire. Il a le droit, c'est marqué dans la halakha, qu'il a le droit d'aller après intenter un procès, un tribunal rabbinique, ses parents, vous me rendez la bourse des écus, est quand même 10 000 euros là-bas, c'est chaval. Et les postes qui me disent, décisionnaires disent, c'est vrai que c'est permis, mais c'est déconseillé. Tu fais. Tu intentes un procès à ton père, d'accord, même pour 10 000 euros, c'est pas obligatoire, mesure de piété, de laisser passer, accepter le décret du roi avec amour. Pardon? Alors, battre au niveau, se faire battre par les parents. En deux mots, c'est comme ça, la loi est comme ça, elle est qu'il est interdit à des parents de battre leur enfant quand ils sont grands. Grand, que signifie grand? Grand à un âge où on sait que la réaction des enfants va être violente. Du genre, il va se mettre à haïr son père, ou il risque de frapper son père en retour. D'accord? Ça peut varier entre. Dès qu'à peut-être même l'âge de 10 ans, jusque l'âge de, je pense qu'à 13 ans, 14 ans, on ne peut plus battre ses enfants. Entre 10 et 13 ans, c'est l'âge où on commence à arrêter de battre les enfants. Avant, c'est permis, mais et un mais en majuscule souligné, à condition que ce soit fait dans un but éducatif, pas avec colère et pas trop. Et c'est marqué dans la halakha que celui qui bat trop ses enfants, alors on l'excommunie. Un nidouille. Et évidemment, très souvent, avec son entourage, on se retient. L'entourage qui est éloigné. Plus l'entourage est proche, moins on se retient. D'accord? Parce qu'on est entre nous, donc on se... et les enfants qui sont dévance, alors là on se défoule. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Les enfants sont extrêmement sensibles. Imaginez, vous avez quelqu'un, il a un enfant, il a 3-4 ans. D'accord? Son père, il est 6 fois plus grand que lui. Imaginez, nous, adultes, on voit un géant, plein de colère, qui vient vers nous, il est 5 fois plus grand que nous. Donc tu fais 1m80 x 5, ça te fait 9 mètres. Un géant de 9 mètres, plein de colère qui va te frapper. Le traumatisme que ça fait, un gosse. Donc on peut et on doit frapper un fils. Mais, d'abord on se calme. On lui explique, tu sais ce que c'est, une chose qui n'est pas bien. Pour ça, je vais maintenant te faire une punition. Tu comprends, alors bien, donne-moi ta main. Tac. Voilà, ça c'est éducatif. Le gosse, il voit que son père, il n'est pas une bête féroce. Son père, d'après la raison, il lui explique, il lui dit, reviens, à toi, reviens maintenant. C'est éducatif, ça. Si on montre un exemple à son fils, énervé, elle va apprendre quoi le fils? Être énervé aussi, c'est tout. T'es une bête féroce. Moi aussi, je suis une bête féroce aussi. Pas obligatoire. Et c'est nécessaire. Surtout à notre génération où il y a un super laxisme et comprenez qu'un enfant a besoin d'affection. Ils ont besoin de voir qu'ils ont des parents qui les aiment. Aimer, c'est pas seulement faire des gentilles caresses et acheter des dos. Aimer, et le fils a besoin de ça, et des fois, ils mettent à bout les parents pour voir. Et ça signifie aussi que l'enfant voit que son père, par amour pour lui, lui donne des limites. Il lui dit, ça tu peux pas. Ça veut dire que j'ai une importance à tes yeux, dans la mesure où tu ne me laisses pas faire ce que je veux. Si le gosse voit tout ce qu'il veut, et personne ne lui dit rien, ça veut dire, sous-entendu, mes parents n'ont rien à faire de moi, parce que j'ai des choses qui sont complètement dingues, complètement folles. Je pousse le bouchon à mort, et rien ne se passe. Ça veut dire qu'ils n'ont rien de moi. Quand j'ai fait un truc, et le gosse, il a fait un truc, il y a même des cas qui racontent que des enfants qui font des choses mauvaises, des fois, ils se tapent la tête dans les murs après. Ils ont besoin, eux-mêmes, de se réprimander, de se mettre des limites. Mais ils ont besoin que les parents mettent les limites. Maintenant, c'est quoi mettre les... C'est pas lui renvoyer un coup de poing dans la figure. T'as fait petit, je suis énervé, boum, ça c'est l'estomac. C'est des animaux, c'est des bêtes féroces. Avec la parole est destructive tout autant que le coup de poing. Tu peux ratatiner un enfant avec la parole. Combien de pères détruisent leur enfant pour la vie, avec la parole. Alors, l'essentiel est ne pas être haineux. L'essentiel, c'est pas fonctionner avec les nerfs, fonctionner avec la tête. Et le gosse t'a mis hors de toi, tu te calmes, première chose, c'est rien. T'es pas le... Maintenant, d'aller lui dire, d'aller lui crier dessus. Tu te calmes. Une fois que tu es calme, comme je l'ai dit, tu l'expliques que c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est interdit. Pour cela, tu dois le punir. Ce qu'il faut. Ça peut être même sur le visage, ça c'est déjà beaucoup, d'accord? La petite tapote, la fessée, s'il faut, ce qu'il faut. Chez moi, il y a la buanderie, d'accord? C'est une petite chambre là-bas où il y a le machin. Si tu coupes comme ça, tu vas finir la buanderie, d'accord? Une fois, deux fois, trois fois, très calmement. Voilà. Ça met des limites extraordinaires. Le gosse, il voit qu'il ne peut pas trop. C'est important. Oui. Absolument. 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 C'est là qu'est la mitzvah. La mitzvah de son père, sa mère, c'est pas quand ton père était lui comme il faut. Quand ton père était le plus tordu des tordus, un ivrogne qui te battait, et tout ce que tu veux, qui battait ta mère et tout ce que tu veux. Et tu lui dois kavod. Tu lui dois kavod. Il y a un seul cas, on verra ultérieurement. C'est pas mon sujet maintenant. Il y a un seul cas qui désengage l'obligation des enfants d'honorer leurs parents, c'est si les parents sont des militants contre la Torah. Des haineux de la Torah, militants contre, des ennemis de Dieu. Là, tu es désengagé de l'obligation de les honorer.
Parce que tenir aussi silence, par exemple, voilà, se taire, ça lui fait du mal, et on le sait parce qu'il le dit, ça lui fait du mal qu'on ne lui parle pas, qu'on ne partage pas des choses.
Je vais répéter la question. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a des relations tendues entre les parents et leurs filles? D'accord? Ta question est, est-ce que le fils peut se taire? Alors, il y a deux façons de comprendre ce que tu dis. Le père est en train d'abattre des malédictions et des insultes sur le fils. Là, il fait ce qu'il est en train d'avoir. Il se tait et reçoit le décret avec amour. Ça, c'est la mitzvah. Très bien. Tu peux comprendre, c'est autrement. Tu m'as fait ça? Ok, viens me chercher maintenant. Ni je t'appelle, ni je te parle, ni rien du tout, ni je coupe les contacts. Complètement interdit. Il y a une mitzvah de Kibbutz Avaim, d'honorer. Enfin, la mitzvah de Kibbutz Avaim, elle est oui de partager, d'avoir un contact chaleureux avec les parents, dans la mesure du possible. On n'est pas des anges. La mitzvah, elle est comme ça. On doit rendre heureux nos parents, et si ça fait plaisir à nos parents que je partage ma vie, que je prends conseil avec lui, je lui raconte, je dois le faire. Absolument, on en a parlé. Il est interdit de faire pression sur ses parents pour qu'ils nous donnent de l'argent. Des fois, quelqu'un est déjà adulte et son père a de l'argent, lui n'a pas, et il vient et je comprends pas, pourquoi tu m'aides pas, tu fais pression, t'as pas le droit. T'as pas le droit, il fait ce que ton père fait ce qu'il veut de son argent. Attends, s'il veut donner, aucun problème, t'as le droit de recevoir, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe quand le père veut donner, mais la mère ne veut pas? La mère, elle veut s'acheter maintenant une villa à la montagne, un château en Espagne, et elle sait que si maintenant son mari va donner de l'argent au fils, c'est cuit, plus le château en Espagne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et le père, il aimerait bien donner. Alors, il faut vérifier. Si le père veut vraiment donner, c'est très clair, alors la volonté du père passe à la volonté de la mère, et le fils pourra recevoir l'argent de son père. Mais si le père, il veut bien, comme ça, il n'est pas contre, mais c'est pas une volonté très claire, dans ce cas-là, il faut respecter l'avis de la mère qui préfère le château en Espagne, et accepter de ne pas recevoir, faire en sorte de ne pas recevoir l'argent de son père. En tout cas, pas faire pression sur lui pour recevoir cette somme d'argent. On sait qu'on va compter la volonté de sa mère, et le père n'a pas une volonté claire dans ce sens. On n'a pas le droit de réveiller ses parents. C'est interdit. Les enfants qui font du bruit, eh ben, c'est interdit. Pardon. Si le père demande au fils de le réveiller, ou si même sans demander, on sait très bien que le père, ça l'embêterait qu'on ne l'ait pas réveillé. Il avait un rendez-vous, et il dort. Après, il dit, complètement fou, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Ou, on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, 8h26, c'est le temps de Kriyat Shema, lui encore à 8h20, il est encore dans le lit, pour le réveiller, il faut le réveiller pour papa, excuse-moi, c'est le temps de Kriyat Shema, tu dois faire Kriyat Shema maintenant, d'accord, ça, ces choses-là, si on sait que lui, il aura de la souffrance, de la douleur, du regret qu'on ne l'ait pas réveillé, donc il y a ça le réveiller, c'est bien de le faire réveiller par quelqu'un d'autre, pas le fils lui-même. S'il n'y a pas le choix, le fils lui-même le fera. Oui. Si c'est un père, pour lui, ça lui casse les pieds de se lever le matin pour Kriyat Shema, tu peux pas aller contre sa volonté, aller et le réveiller. Lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Encore ton histoire de religion, tu me casses les pieds, d'accord? Au contraire. Oui. Hein?
Pour la mère?
Aucune différence entre père. Tout quand je dis père, fils, tout ça, c'est tout est valable au niveau féminin, d'accord? Aucune différence entre le père et la mère. Oui. Si on sait que le père regretterait qu'on ne l'ait pas réveillé pour faire cette mitzvah, alors n'importe quelle mitzvah, il y a une mitzvah de le réveiller. Si tu sais que ton père, maintenant, il va regretter. Le but, c'est quoi? De faire sa volonté. Lui, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut dormir ou il veut te réveiller? Il faut que tu analyses. Voilà. Dans le doute, demande à ta mère, maman, papa, il dort, qu'est-ce que je fais? D'accord? Allez, ça donne près, ça. Allez, lève-toi. D'accord? Ok, maintenant, on va passer un peu aux lois de priorité. Entre le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, comment ça se passe exactement? Alors d'abord, entre le père et la mère. Le père a dit, donne-moi à boire. La mère, certainement, lui dit, donne-moi à boire. Qui passe avant? Le père passe avant. On parle maintenant s'ils sont mariés, et là, il y a une priorité au père par rapport à la mère. On parle aussi si les deux ont demandé un kibbutz avaim, donc un service d'honneur du père et mère qui est direct. On a expliqué qu'il y a deux sortes d'honorer son père et sa mère. Il y a l'essentiel qui est donne-moi à manger, donne-moi à boire, habille-moi, sors-moi, etc. Et aussi tout ce qui va avec, fais les achats pour moi, va payer les factures pour moi, etc. C'est des choses de ce type-là qui sont ce qui va autour. Si, par exemple, le père me dit, va s'il te plaît me payer ses factures à la poste, et la mère lui dit, va s'il te plaît, amène-moi à boire, j'ai soif. La mère passe avant. Parce que la mère ici a demandé une mitzvah qui fait partie du kibbutz haem essentiel, sur son corps, d'accord. On passe maintenant de satisfaire un besoin du corps de la mère ou du père, alors que le père a demandé qu'une chose qui va autour, rends-moi service, c'est pas directement sur le corps, habiller, sortir, abreuver et nourrir. Donc il y aura ici priorité à la mère. Si les parents sont divorcés, il y a égalité et le fils choisira d'après ce qu'il a envie et ce qu'il peut passer son père ou sa mère en premier. S'il s'agit maintenant de donner de l'argent de tzedaka à ses parents, on a parlé dans le cas où les parents n'ont pas d'argent et le fils n'a pas d'argent mais il a suffisamment pour donner de la tzedaka. S'il a de l'argent plus que pour donner de la tzedaka, il donne de la tzedaka, mais il reste encore un petit pécule, alors il n'a pas le droit de donner de l'argent de tzedaka à ses parents. Parce que c'est un manque d'honneur, même si personne ne sait, même si les parents ne savent pas, mais c'est par rapport à lui-même. C'est un manque d'honneur de donner de l'argent de tzedaka. Tu donnes l'aumône à tes parents, c'est honteux. Donne l'argent que tu as toi. Et le monde va aller aux pauvres. Mais si le fils n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent, il a simplement son maaser, le 10% qu'il donne pour les pauvres, il est obligé de donner préséance priorité à ses parents plus que de donner à un pauvre inconnu. Maintenant, à qui il y a priorité? À donner au père ou à la mère? Là, il y aura priorité à la mère. Dans les lois de tzedaka du Shulchan Aruch, indépendamment des lois de Kibbout Avehem, dans les lois de tzedaka, c'est marqué, si tu as un pauvre homme et un pauvre femme, on donne d'abord à la pauvre femme. Parce qu'une femme, elle peut moins débrouiller pour faire de l'argent qu'un homme. Donc, mieux vaut aider une femme qu'aider un homme. Là aussi, dans le cas des parents, la mère passera avant le père. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'appellation des enfants? Il y a la coutume dans le peuple d'Israël, il y a un midrash qui dit ainsi, que la coutume est qu'on appelle les enfants au nom des parents. Il y a des communautés où on appelle les enfants au nom des parents, même quand ils sont vivants. Par exemple, moi je viens du Liban, chez nous on appelle nos enfants au nom des parents, même s'ils sont vivants. Et, je vous dis un cas très marrant, parce que moi mon père s'appelle Yosef, et mon beau-père aussi s'appelle Yosef. Mon beau-père il est marocain, ma femme est marocaine, Baruch Hashem, et moi je suis libanais, Baruch Hashem aussi, d'accord? Maintenant, chez nous, coutume d'appeler l'enfant au nom du père. Donc je vais appeler mon père Yosef. Mon beau-père, il dit, pas question. Chez nous, au Maroc, on n'appelle que les morts. Là, tu m'as tué, d'accord. Si tu appelles maintenant ton fils au nom, la superstition, en plus, d'accord, t'as appelé le nom du fils au nom du grand-père vivant, c'est comme tu lui dis, je te souhaite de bientôt faire partir des morts, d'accord. C'est un truc intenable. Alors, dans ce cas-là, il y a problème. Donc moi, je vais pas appeler mon fils. Je demande à mon père, est-ce que ça le dérange que je n'appelle pas mon fils en son nom? Il n'y a aucun problème. Donc dans ce cas-là, ça va. C'est marqué, si les parents sont mohalim, excusent leur honneur est excusé. Les parents peuvent passer outre les lois d'honneur. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'il fallait faire. Mais si par exemple mon père aurait refusé, dans ce cas-là, alors il y a la préséance à... Il y a la préséance à ce que veut le mari. Entre le mari et la femme, on va dire, un papa et une maman ont eu des enfants, ont eu un fils. Le papa veut appeler son fils au nom de son père. On va fermer. Voilà. Yitzhak et Rivka ont eu un fils, d'accord? Yitzhak et Rivka, le père de Yitzhak s'appelle Abraham, le père de Rivka s'appelle, comment il s'appelle l'arabe? Betuel. Rivka veut appeler son fils qui est né Betuel, et Yitzhak veut appeler son fils qui est né Abraham. Là, la halakha fixe qu'il y aura priorité pour le premier enfant, on va l'appeler au nom de Abraham, au nom du père de Yitzhak, le nom du père du père, d'accord, le nom du grand-père paternel. Le deuxième, alors Mitzvah m'attend de l'appeler au nom du père maternel. Maintenant, il y a des... Ça c'est dans les conditions où il n'y a pas de coutume dans la communauté. S'il y a une coutume, il y a certaines communautés où on fait passer d'abord... priorité pour donner le nom du grand-père maternel. Ainsi est la communauté, je ne connais pas la communauté moi, dans laquelle il y a cette coutume. Les livres disent que oui, ça existe. Donc si la communauté a une coutume de faire appeler le premier fils au nom du grand-père maternel, on va suivre la coutume. S'il n'y a pas de mina claire, de coutume claire, alors ça sera au nom du grand-père paternel. De même pour les honneurs du genre, sandaka ou sandak, c'est donc être ce qu'on appelle le parrain, je ne sais pas d'où ça vient ce terme-là, mais il y a une grande mitzvah, lorsqu'une brit mila, très grande mitzvah, d'être celui sur qui on pose les genoux de qui on pose le bébé qu'on va maintenant circoncire, d'accord? C'est une très grande mitzvah, c'est comme si on amène une ktoret, comme si on rentre dans le saint des saints, on fait de l'encens dans le saint des saints, c'est une très grande mitzvah, c'est un grand tikkun abrit, celui qui peut avoir la chance, ça répare, on pourrait faire comme avera, comme péché au niveau des organes sexuels, donc c'est une très grande mitzvah. Maintenant, le fils aîné, Mazal Tov, déjà on va l'appeler au nom du grand-père paternel, le grand-père maternel, ok, alors au moins donnez-moi d'être Sandak. Eh bien non, monsieur, d'accord. La coutume dit, à moi, encore une fois, si le grand-père paternel a dit, ok, moi tu me donnes le nom, mais donne à mon grand-père, à mon Routan, comment on appelle ça, le père de ma bru, comment on appelle ça en français? Le beau-père, c'est pas mon beau-père. Moi je suis le grand-père paternel. Le grand-père maternel.
L'alter ego.
Ok, le père de ma bru, d'accord? Donne à ton beau-père, le père va dire à son fils, donne à ton beau-père au moins le kavod d'être que lui soit le sandak. Si de nouveau le kavod d'un père, s'il veut excuser, il est excusé, de facto. Mais si jamais le père insiste, moi je veux et le nom et le sandak, d'après la loi, il a le droit de faire une chose pareille. Ça, c'est encore où il n'y a pas de coutume inverse. C'est la coutume. Et comme je dis, il y a certaines communautés où la coutume est qu'on donne la priorité au grand-père maternel, donc il y aura priorité au grand-père maternel. Alors il y en a qui ont trouvé une combine qui est sympa. Pour le nom, par exemple, on va faire un peu de politique. Moi, j'ai fait ça pour ma fille, ma première fille qui était née. Ma mère voulait qu'on l'appelle Avital. Maintenant, ma grand-mère maternelle venait de décéder la même année, elle s'appelait Léa. Alors je lui dis, on va l'appeler Avital Léa. Ma femme m'a dit, mais moi aussi j'ai une grand-mère paternelle qui est décédée il y a quelques années, elle s'appelle Sarah. Bon, alors, pas de problème. Avital, Sarah, Léa, on lui a donné trois noms, terminé, comme tout le monde est content, et voilà. Et sur le terrain, on l'appelle qu'Avital, qui appelle Sarah Léa, d'accord? Je crois que ce nom existe peut-être dans la Koutouba, un ami comme ça, je ne me souviens plus même comment on a fait, d'accord? C'est juste, il y a beaucoup de politique là-dedans. Alors il y a aussi politiquement, donc on peut faire maintenant que, on va dire, Abraham, c'est le grand-père, Yitzhak et Rivka ont eu un enfant. Abraham, le père de Yitzhak, veut qu'on appelle l'enfant Abraham. Bethuel, le père de Rivka, veut qu'on appelle le petit-fils Bethuel. Donc, Yitzhak et Rivka disent, pas de problème, on va l'appeler maintenant Abraham Bethuel. Ou Bethuel Abraham, non. Là, l'Alacha dit, quand même, on va donner quand même une petite priorité au grand-père paternel, il s'appelle Abraham Bethuel, et non Bethuel Abraham. Alors, est-ce que c'est lui, on va pas donner plusieurs prénoms? Alors, il n'y a pas de problème à donner plusieurs prénoms, à condition qu'on appelle l'enfant ainsi. C'est-à-dire que le nom qu'a une personne, c'est le nom de son âme. Et l'âme, c'est un flux d'énergie qui vient sur la personne. Si j'appelle la personne en son nom, je fais qu'il y a le flux d'énergie qui lui revient, vient sur lui. Si j'appelle maintenant avec plusieurs noms, d'habitude les gens sont extrêmement paresseux, donc ils ne vont plus appeler leur fils avec Abital, Sarah, Léa, Tuba, c'est impossible, d'accord? Donc dans ce cas-là, effectivement, on enlève un peu du flux qu'il y aura à l'enfant. Mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça a de l'importance pour tout prendre de façon, dans la bonne mesure. Je sais pas, c'est une influence de ce type-là, mais je ne sais pas à quel point c'est grave. S'il y aura des problèmes politiques dans la famille et des bagarres à cause de cela, mieux vaut de loin calmer le jeu avec une chose pareille, même si on sait pertinemment qu'on ne va pas appeler le fils après ainsi avec tous les noms, plutôt qu'avoir la guerre. La guerre, c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. D'accord? Le manque de paix, Gadol HaShalom, Dieu est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait la paix dans le couple. Il faut savoir aussi que le nom d'une personne, c'est le nom avec lequel on l'appelle. Alors, même si quelqu'un il a un nom qui est très long, il s'appelle Avraham Yitzhak Yaakov, d'accord, par exemple. Maintenant, si quand il monte à la Torah, on l'appelle Avraham Yitzhak Yaakov, ça va. C'est que son nom n'a pas été effacé complètement. Il reste. Si on ne l'appelle pas avec ce nom jamais, alors le nom s'efface. Par exemple, les femmes qui ne montent pas à la Torah, ma fille Avital Sarah Léa, personne au monde ne l'appelle Avital Sarah Léa. Sarah Léa, ça n'existe pas ce nom-là. Alors, il est déraciné, il part. C'est un verset qui dit, non, Maseret Brachot, c'est marqué, que c'est un verset Tehilim qui dit Hassam Shamot Ba'aretz. On parle de Dieu Hassam qui met Shamot des dévastations Ba'aretz dans le monde. La Gemara dit Altikri Shamot et la Shemot. N'appelle pas le mot Shamot, dévastation, on appelle Shemot, qui c'est Dieu qui met des noms sur terre. Et de là, on apprend que le nom va d'après comment on l'appelle sur terre. Quelqu'un qu'on appelle par exemple Avital. Alors, bien qu'il ait encore deux noms, Sarah Léa, son nom est Avital. Je raconte une autre fille. J'ai une fille qui s'appelle Elisheva. Voilà, comme ça. J'ai une fille qui est née. L'histoire, elle commence comme ça. C'est que j'étais programmé pour avoir des garçons et des filles normalement. Je ne sais pas, en tout cas. J'ai eu un garçon et j'ai eu après deux filles. C'était en Pessah 1990. je lui ai demandé de prendre une bracha du Rav Ben Samuel Bashaoul. C'était à Pessah. Je lui ai dit, Rav, une bracha. Pourquoi un jeune homme de mon âge veut une bracha? Je vais avoir une trentaine d'années, d'accord, je vais dans la Torah, donc une bracha pour monter en Torah, Irat Shamaim, etc. Lui me dit, Irat Son, c'est une volonté de Dieu que tu aies beaucoup de garçons. Moi, déjà, un garçon, je ne sais pas combien j'ai transpiré. Alors, les garçons, à quoi ça me sert, d'accord? J'ai dit non. J'ai vu comme ça, tac, le flux s'est arrêté, terrible. Le bras s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté, silence dans la salle, d'accord? Bon, dès ce jour-là, j'ai eu des filles. J'étais branché sur les filles. Donc, un garçon, 7 filles. Bon, alors, au bout d'un moment, bon, Hachem, je serais content, j'ai aucun problème. Bon, et là, maintenant, tous mes petits-fils, c'est des garçons, d'accord, en train de former une équipe de football. On reprend la revanche. Alors, au bout d'un moment, au niveau de trouver des noms, tu ne trouves plus de noms, parce que tu trouves un problème de noms, d'accord, les filles, au bout d'un moment, tu as épuisé tous les noms qui sont sympas. Alors, j'ai encore une fille, parmi les 7, et je lui ai demandé le Rav Ben Sion, voilà, on veut l'appeler Elisheva. Il m'a dit non, un autre nom. C'est pas un bon nom, Elisheva. Il y a certains noms qui ne sont pas des très bons noms. Tout ce qui est avec le mot Sheva, 7, c'est pas bien. D'accord, Batsheva, Elisheva, pas bien. Je lui ai dit Simcha. Il m'a dit non, c'est pas un bon nom plus. Simcha, c'est pas un bon nom. Il y a plusieurs noms pour les filles qui ne sont pas très bien. D'accord. Je vous l'ai dit peut-être comme ça en vrac. Ruhama, Nechama, Batsheva, Elisheva, Mazal, Mazal Tov. Le pire, c'est Rachel. Le pire des noms, Rachel. J'ai une fille qui s'appelait Rachel. Il m'a dit, change. Et moi, j'ai continué. Je savais qu'il disait, je l'appelais exprès Rachel. J'aimais beaucoup ce nom-là. C'est le plus beau nom que j'aime, c'est Rachel. D'accord. Et il m'a dit après, non, j'ai continué. Quand elle avait 4 ans, il m'a dit, franchement, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Il m'a dit, c'est des problèmes pour se marier, des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de divorce, 40 000 problèmes. J'ai dit, ok, ça va, j'ai changé et j'ai appelé Efrat. Là aussi, c'est un cas. Donc aujourd'hui, bien que son nom à la naissance, c'est Rachel, vu que plus personne sait qu'elle s'appelle Rachel, tout le monde l'appelle Efrat, son nom est devenu Efrat. Pour une fille, le nom de l'homme, il reste parce qu'on l'appelle quand il monte à la Torah de temps en temps, donc son nom, il va rester. Mais le nom de la fille, c'est d'après comment les gens l'appellent. Maintenant, elle s'appelle, Mas'ouda, Freha, Sultana, Jennifer. Les gens l'appellent Jennifer. Ni Freha, ni Kochava, ni Mas'ouda, d'accord? Jennifer. Tous ces noms-là disparaissent. Elle devient Jennifer, d'accord? Son nom, c'est Jennifer. Comme ma fille Rachel, qui est devenue Efrat. Aujourd'hui, c'est Efrat. Personne ne connaît. Je dis Rachel, je ne sais pas de quoi on parle. Oui, si, on peut changer le nom. Ah ouais. Pardon? Ah, j'ai 4 ans. Non, rien du tout. Maintenant, laissez-moi finir pour Elisheva Simcha. Elisheva Simcha, alors il m'a dit, Elisheva, c'est pas bon. Simcha, c'est pas bon. Je dis, ok, Elisheva Simcha. Il m'a dit, c'est bon. Parce que deux noms, c'est un autre nom. C'est pas et le nom Elisheva et le nom Simcha. C'est un nom qui s'appelle Elisheva Simcha. Mais il faut l'appeler ainsi. Attends, on a tenu combien? Un mois, deux mois, six mois. Elisheva Simcha, Elisheva Simcha, Elisheva Simcha. Aujourd'hui, son nom, c'est quoi? Tout le monde l'appelle Elsie. Elle de Elisheva, si de Simcha. C'est un raccourci. Elsie, le monde entier l'appelle Elsie. D'accord? C'est comme ça. Son nom maintenant, elle a un nouveau nom. Elle, dans la Ketouba, il faudra marquer Elisheva Simcha, qui est appelée Elsie. Parce que son vrai nom, c'est Elsie. Elisheva Simcha, c'est presque disparu.
On n'a pas le droit, normalement, de changer de prénom de quelqu'un.
S'il y a nécessité, parce que c'est un nom qui est mauvais, oui, pourquoi pas. On va au Sefer Torah. Et on dit, voilà, on lui fait une bracha. Et qui s'appelle maintenant, comme ça, c'est tout.
Et pourquoi Rachel, c'est pas vous?
Alors, le pourquoi, j'ignore de ces choses-là. Pour les hommes, il y a deux noms qui sont très mauvais, c'est Shmuel et Yitzhak. D'accord? Ceux qui sont comme ça... Bon, voilà, c'est pas dire forcément que c'est la fin des haricots, parce que là, je suis en train de tourner... Si des gens me voient, c'est 100 000 personnes que je touche dans le peuple d'Israël, d'accord? Yitzhak, Shmuel, c'est bourré, et Rachel aussi. Mais le Rav a dit, il a vu d'expérience que c'était un nom. Rav Benson Abashul. Une fois, j'avais un élève. Il y avait un problème pour se marier, ses parents ne voulaient pas, tout ça. Je lui dis, comment il s'appelle? Il sera appelé. Ah. Tout de suite, il a dit le nom, mais comment il s'appelle? Il a vu tout, il voyait le nom. Il y a des choses comme ça. Bon, il ne faut pas non plus, encore une fois, tout prendre dans une certaine mesure, est-ce qu'il faut de me rentrer en panique, commencer à changer les noms, etc. Pas forcément. Je parle maintenant en passant pour les noms, parce que comment je suis arrivé à cela, pour passer maintenant de priorité. Alors je reviens à nos moutons. Les deux grands-parents sont vivants. Donc, Avraham est vivant et Bethuel est vivant. Mais la tradition dans la famille d'Avraham et Yitzhak, d'accord, est qu'on n'appelle pas le nom du petit-fils au nom du grand-père quand il est vivant, comme chez les Marocains, par exemple. Et du côté de Rivka, dans la famille de Rivka et Betuel, on appelle le petit-fils au nom du grand-père qui est vivant. Dans ce cas-là, alors, c'est clair, on va appeler le petit-fils au nom de Betuel. Parce que Abraham étant vivant, et dans la famille d'Abraham, on n'appelle pas le petit-fils tant que le grand-père est vivant, et chez la belle famille, oui, on appelle ainsi, donc aucun problème d'appeler le petit-fils Betuel. Abraham est décédé. Betuel est vivant. Dans la famille d'Abraham, on appelle le petit-fils au nom du père qui est décédé, du grand-père qui est décédé. Dans la famille de Rivka, on appelle le petit-fils même au nom du grand-père qui est vivant. Donc ici, maintenant, il y a deux kavod. Il y a faire le kavod au grand-père qui est vivant et faire kavod au grand-père qui est décédé. Là, on fera passer l'honneur du grand-père vivant avant l'honneur du grand-père décédé. Décédé dans la tombe, lui comprend que c'est des bêtises, ces histoires-là, et ça va pas loin. Le vivant, comment, et moi, etc., etc., donc pour qu'il y ait la paix, etc., donc mieux faire passer le... En plus, une missa de kavod, alors qu'il est vivant. Il y a une missa de kavod aussi des parents quand ils sont morts. Mais c'est certain que le kavod du vivant passe avant le kavod du décédé. Donc, on appellera le petit-fils au nom du grand-père maternel. Si le premier petit-fils a reçu le nom du grand-père paternel, plus c'est le grand-père paternel qui était syndac, qui est tout à fait logique et dans les lois de Kibbutz Avaim, même, je dirais pas obligatoire, que ce soit le grand-père maternel, au deuxième coup, qui reçoit et l'honneur d'avoir son petit-fils à son nom, et aussi le fait d'être syndac. Une autre question, David?
Une deuxième question, en fait, voilà. Vu que la majorité des personnes ici ont donné Hourim appelé à se marier, dans la notion des noms, vous avez dit, les noms mauvais, les noms bien, est-ce que c'est pas un critère dans un deuxième temps, voir en fonction du nom, est-ce que ça devrait se rajouter dans les critères, voire dans son critère de choix?
Je pense pas.
Dans un deuxième temps, bien entendu, à part les...
C'est quoi un deuxième temps? Elle te plaît, c'est bien, tout va bien. Elle s'appelle Rachel. Alors.
Je dirais, c'est physique, il y a un chamaï, mais...
Physique? Chouhada physique, qu'est-ce que c'est physique? Propre de physique? E est égal à MC2. Ouais, en dernier, c'est ça, en deuxième temps. Deuxième temps. En premier, tu me dis physique. Ah, les Français.
Si vous dites que le prénom du grand-père paternel n'est pas un prénom adéquat, par exemple, vous avez dit Shmuel ou Yitzhak, est-ce qu'on peut à ce moment-là dire, bah, tu sais...
Alors, tu feras de la politique, tu veux l'appeler Shmuel Itamar. À la Brit Mila, c'est Shmuel Itamar. Et après, déjà, Shmuel Itamar, c'est deux noms, comme je t'ai dit. Il y a un nom qui s'appelle Shmuel Itamar. Déjà, si tu veux l'appeler Shmuel Itamar, déjà, et l'appeler vraiment comme ça, c'est aucun problème, parce que Shmuel, ça c'est le nom qui est pas bien, mais Shmuel Itamar, ça va. Shmuel Yaakov, ça va. Shmuel n'importe quoi, ça va, parce que c'est un nouveau nom. Et même quand tu montres à la Torah, donc la page Shmuel Itamar, il n'y a aucun problème. D'autres questions, messieurs?
Il y a plusieurs prénoms. Et qu'on doit, on va faire une prière pour savoir quoi, est-ce qu'on doit donner le prénom qu'on lui donne?
Le nom avec lequel, le nom usuel. Ouais.
Même si ouais. Elles sont à la naissance, trois prénoms.
Ouais, ouais. Jennifer, Masrauda, machin, tout ça. Je ne sais pas, Kochava, Frecha, tu l'appelles Jennifer.
Quand on a un prénom français et un prénom hébraïque, et qu'une partie des gens vous
appellent... Alors ce sont les deux noms. À la Ktouba, on met le nom juif en premier, et entre parenthèses, le nom non juif. Mais il existe ce nom. Baruch Adonai, l'homme va mais...